On se retrouve donc en direct sur Radio Éthique du Fairmont au bar Horizon. Raoul Viora, président de Monaco Développement Durable, MC2D, est avec nous. Bonsoir, monsieur Viora.
Bonsoir.
Votre analyse un petit peu de cette conférence de Copenhague. Bon, analyse un petit peu en avance parce que ce n'est pas terminé, semble-t-il. Ses points forts, ses points faibles.
Je pense que c'était surtout une réunion de gens de très haut niveau représentant les gouvernements. Moi, j'en retire que c'est peut-être pas la seule voie à suivre pour arriver à améliorer la situation au niveau global et au niveau, disons, de l'ensemble des prises de conscience, et qu'il faudrait peut-être, et je pense que le rôle des associations et des ONG est important. On l'a vu, mais sous une forme peut-être trop démonstrative et peut-être imagée ou sensationnelle. Je pense qu'il y a du travail à la base à faire, de la sensibilisation. Et dans ce contexte-là, peut-être que dans les sessions à venir, le fait de qu'il y ait une meilleure prise de conscience de la part des populations, même chez nous. Hein. Très souvent, les gens ont l'impression ici qu'on parle de choses très, très théoriques qui se passent et qui intéressent des populations lointaines et qu'on est relativement peu concernés.
C'est un peu votre avis, Hélène Granouillac, aussi, je présume. Hein.
J'ai un problème de conjugaison. C'est que j'aurais espéré qu'on parle de plutôt au présent, ou voire au futur. Et là, on a l'impression que les choses sont un peu figées. Mmh. Et en fait, il y a trois points qui étaient vraiment majeurs à Copenhague. C'était comment, quand et combien. Alors le comment, on espérait qu'après 12 ans, après Kyoto, on allait pouvoir avancer. Après Johannesburg, la maison qui brûle, on allait pouvoir avancer. Et là, on s'aperçoit qu'on piétine beaucoup. Donc le comment n'est pas très positif. Le combien non plus, on n'a aucune visibilité en termes de financement. Donc, je trouve que de ce point de vue-là, c'est
pas très encourageant.
Pas très encourageant. Ouais. Et il y a quelque chose qui m'a un tout petit peu écorché l'oreille tout à l'heure quand M. Gomez a pris la parole. Non pas que M. Gomez ait dit des choses fausses, c'est pas du tout le propos. Il a parlé de prise de conscience. Et je crois que c'est un mot qu'il faut éradiquer. Il n'y a plus de prise de conscience aujourd'hui. On est tous conscients. Mmh. Aujourd'hui, c'est un passage à l'acte qui devrait avoir lieu. Et c'est ce qu'on attend.
En tout cas, il y avait une vraie attente avant cette conférence de Copenhague. Je vais vous faire entendre quelque chose qui a été fait, un petit sondage qui a été fait par Céline Merinkeli. C'était mercredi dernier, écoutez.
Dans l'absolu, c'est un véritable espoir, en tous les cas pour la planète et les citoyens. Il ne faudrait surtout pas que ça devienne un enjeu politico-politique et qu'il soit le prétexte à un affrontement entre les pays du Nord et les pays du Sud. Je ne crois pas qu'il y ait de vrais gros engagements qui seront pris pendant Copenhague, mais je pense que ça va être une base de travail pour une rencontre qui devrait avoir lieu, je pense, dans les mois à venir. Et je crois savoir que les États-Unis en prévoient déjà une à Washington dans à peu près un an. Et je pense que Copenhague servira de véritable base pour un travail à venir.
Je pense qu'il est urgent que les principaux pays industrialisés se fixent des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, qu'ils s'engagent à chiffrer leur baisse de niveau d'émission. Et parallèlement, une aide pour les pays pauvres, qui sont les moins pollueurs et les premiers frappés par le réchauffement climatique, doivent faire partie des engagements des pays riches. Au niveau de l'opinion publique, l'impact est réel. Certaines personnes, voyant que des nations puissantes engagent des actions réparatrices, peuvent prendre conscience de l'urgence du problème s'ils n'étaient pas encore convaincus, et éventuellement modifier leur comportement.
Il y a un point positif. C'est que ça met l'environnement et l'avenir de la planète au centre des préoccupations des citoyens. Par contre, après, au niveau des décisions qui peuvent en émerger, malheureusement, je pense que beaucoup de délégués viennent pour défendre leur beefsteak et les intérêts économiques. En général, pour un État ou un politique, quand dans la balance, il y a l'environnement d'un côté et l'argent de l'autre, ça penche toujours vers l'argent.
Alors attention, ils n'étaient pas tous comme ça, ceux que Céline Merinkeli a interviewé. Il y en avait qui n'avaient vraiment aucun intérêt par rapport à Copenhague. On a choisi vraiment ceux qui étaient le plus impliqués. Elle avait assez raison, la troisième intervenante, en ce qui concerne les résultats possibles. On l'a fait bien avant la fin de la conférence. Elle avait un peu raison. Elle sentait bien que ça n'allait pas trop marcher, non ?
Que dire là-dessus ? On fait des réunions, des grandes messes. Il en sort ce qu'il peut en sortir. Moi, je crois que s'il n'y a pas une impulsion qui vient de la base, qui vient réellement des populations, les gouvernements ne se sentiront que moyennement motivés. Je ne crois pas qu'il y ait tellement de des gens qui ont négocié là-bas, qui avaient l'impression d'être vraiment sur la sellette et de risquer quoi que ce soit dans leur mandat, ou s'ils gagnaient ou s'ils ne gagnaient pas, contrairement à ce que certains ont prétendu.
Hélène Granouillac, vous disiez tout à l'heure que la prise de conscience est déjà quelque chose qui appartient au passé. Normalement, tout le monde devrait avoir pris conscience de ça.
Mais est-ce à qu'on moins peut... d'être un ermite, autrement, oui.
Mais est-ce qu'on peut contester que l'augmentation de CO2 soit à l'origine du réchauffement de la planète ? Est-ce qu'on peut parler du cycle naturel, par exemple ? Il y en a qui défendent ce point de vue-là.
Vous connaissez le GIEC, il y a quand même plusieurs milliers de scientifiques qui ont travaillé là-dessus, qui ont d'ailleurs reçu le prix Nobel, qui peut être contestable ou contesté. Néanmoins, ce sont des gens, il y a un consensus scientifique international, ce qui est quand même une première. Donc, pour que tous ces gens s'entendent pour une fois, on peut effectivement, il y a la majorité ou la minorité muette qui essaie de se manifester aujourd'hui. Néanmoins, la parole est donnée à des experts du monde entier qui s'entendent à dire qu'effectivement, l'impact et l'activité humaine est majeur. On peut en avoir pour preuve l'industrialisation avec les dégâts qu'il peut y avoir depuis que l'homme effectivement conduit un véhicule, monte dans un avion, etc. Jusqu'à présent, on était un certain nombre d'habitants sur Terre. On était, je crois, 1 milliard il y a un peu plus d'un siècle. On est en train de basculer simplement en un siècle à 6 milliards. Les perspectives sont quand même de 9 milliards. Je ne sais pas si on va les dépasser. Donc, il y a quand même une prise de conscience. Et le fait qu'on soit industrialisé aujourd'hui a marqué véritablement des changements, même si on peut dire, effectivement, même s'il y a des scientifiques qui disent, qui s'accordent à dire que le changement climatique est inscrit dans l'ordre des choses et du monde et que de toute façon, il y a des périodes de glaciation, de réchauffement, etc.
Raoul Viora, les conséquences les plus évidentes, si Copenhague est un échec ou un semi-échec pour vous, qu'est-ce que ça peut être immédiatement et dans l'avenir ?
Bon, je crois que c'est au niveau à la base qu'il faut insister. Et comme conséquence, je tire simplement la conclusion que nous devons travailler, nous prononcer, essayer de réunir un maximum de bonne volonté sur ces sujets de réchauffement global, mais également de changement climatique global, mais également au niveau local, parce que les choses se tiennent. Vous savez, moi, je suis toujours dans l'état d'esprit de je ne sais plus quelle autorité qui avait dit ça une fois, ou quel esprit supérieur qui avait dit « pensez globalement et agissez localement ». Bon, il faut agir localement dans la limite, ou disons dans le contexte que nous connaissons. Alors évidemment, on peut parler de Monaco, c'est un cas particulier, très particulier, mais ce type de démarche, je crois qu'il doit être entrepris le plus largement possible. À part quelques actions d'éclat, je ne crois pas qu'il y ait actuellement le mot prise de conscience peut-être ne pas vous plaire, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui, quand on leur dit d'essayer de diminuer leur consommation,
ils ne le font pas,
ou ils le font si ça c'est leur intérêt pécunier immédiat, mais ils ne vont pas prendre sur eux d'aller dépenser un petit peu plus, même si financièrement ils peuvent s'y retrouver éventuellement. Donc je pense que il y a vraiment ces motivations qui sont du domaine disons très globalement des associations, des ONG, etc., qui doivent être soutenues, parce que si un gouvernement veut faire passer auprès des populations un certain nombre de messages, il y a évidemment la presse, il y a évidemment, mais là on fait très souvent dans le sensationnel, et je pense qu'il est plus efficace, il est au moins autant efficace de travailler à travers et de passer, d'utiliser le relais des associations et des ONG.
Alors, on va voir ce que vous faites concrètement avec MC2D en ce qui concerne effectivement le développement durable. Est-ce qu'à Monaco, on peut dire que les conséquences de l'augmentation des températures, les conséquences des émissions de gaz à effet de serre, on les ressent quelque part avec des indices particuliers ?
Je ne crois pas. Il faudrait demander aux autorités et à ceux qui mesurent. Tout à l'heure, M. Gomes a bien indiqué à peu près qu'on était capable de faire des calculs pour mesurer les dégagements de CO2 dans un contexte aussi particulier que celui de Monaco. Bon, je fais confiance aux spécialistes. Moi, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, à Monaco, avec le froid qu'il fait, les gens ils pensent beaucoup plus à se demander s'il va y avoir de la neige dans les stations de ski qu'à autre chose, quoi. Je veux dire, donc, la prise de conscience aujourd'hui que le réchauffement climatique ou le changement climatique va avoir des conséquences pour eux personnellement à court terme, dans l'immédiat, avec l'urgence telle que c'était décrit par certaines personnes, moi, à mon avis, ce n'est pas prouvé du tout, quoi. Je veux dire, ce n'est pas rentré dans les esprits.
Voilà, c'est ça.
Ça n'est pas rentré dans les esprits. Et nous, bon, au niveau d'une association comme la nôtre, bon, on essaye de les quelques personnes motivées. Et il y en a, heureusement, on essaye de faire passer ce message. Mais c'est vrai que la notion de développement durable, aujourd'hui, si vous faites un petit peu un questionnaire et que vous questionnez les gens dans la rue, il y en a assez peu qui arriveront à matérialiser et à expliquer exactement de quoi il s'agit.
Hélène Granouillac ?
Oui, simplement, il y a une question qui est peut-être centrale qu'on n'a pas posée. C'est est-ce que Copenhague... Et en tous les cas, la question climatique, est-ce que ça remet en question la survie de l'humanité? Si la réponse est oui, alors effectivement, Copenhague est majeur et il faudra faire très très vite. Si la réponse est non, alors on a remué le ciel et terre pour rien, on a fait beaucoup de communication, c'est très bien, tout le monde rentre chez lui, l'esprit tranquille.
Alors on va être très concret. Oui, allez-y.
Sur ce point, oui. L'humanité, ce n'est pas une et entière. Quand je veux dire, l'humanité a passé son temps depuis qu'elle existe à se faire des guerres et à se détruire. Bon, les gens, vous savez... Malheureusement, quelquefois, vous avez des gens qui sont très malheureux dans un environnement extrêmement proche et personne ne fait rien. Donc la survie de l'humanité, pris très globalement, à mon avis, ça ne porte pas...
Oui, mais il n'y a pas de précédent là, c'est-à-dire qu'il y a des...
Vous avez raison. Non, mais
il y a des peuples indigènes de l'Amazonie qui sont concernés, il y a les peuples de Tuvalu qui sont également concernés, il y a certainement des Tchétchènes, il y a des gens de Namibie qui sont concernés. La planète entière est concernée par le sujet et c'est sans précédent. Et c'est ce en quoi le débat et le défi est remarquable.
Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème. Je dis simplement que la perception, pour que les gens aient une perception suffisamment exacte de la gravité de la situation, ben, il faut qu'il y ait des relais et pas simplement des relais, strictement médiatiques.
Vous en êtes un MC2D. On va être très concret. On va vous demander, Raoul Viora, dans quelle direction vous œuvrez spécialement pour essayer d'améliorer le développement durable dans votre association?
On essaye d'œuvrer dans tous les domaines qui touchent à l'environnement et au développement durable, qui sont très variés et très, très, très nombreux. On essaye de traduire à un niveau local ce qui peut être, disons, perçu comme très global, en matière de déchets, en matière de transport, en matière de...
Alors déchets, qu'est-ce qu'on fait?
Ben, déchets, nous avions proposé, le gouvernement a bien suivi, une politique de tri sélectif, etc. Bon, aujourd'hui, Monaco, on a un système qui est ce qu'il est, avec une usine d'incinération. Bon, on sait qu'un jour, elle va devoir s'arrêter. Bon, je pense qu'elle a encore quelques années devant elle, mais un jour, il faudra bien faire autre chose. Donc là,
avec la fermeture de la glacière, elle est quand même très, très nécessaire en ce moment.
Ah ben disons que ça nous arrange bien de pouvoir garder et traiter les déchets sur Monaco. Là, il aurait fallu poser la question à M. Van Claveren tout à l'heure. Mais c'est exact que le problème des déchets, d'une façon générale, et surtout dans notre région, est un problème grave qui n'est pas résolu, qui n'a pas été résolu au cours des 20 dernières années. Il y a eu des tas d'idées, des tas de choses. Bon, Monaco, nous avions eu, et je dirais nos prédécesseurs et nos anciens avaient eu la bonne idée de se considérer comme autonome, ça continue à être le cas. Mais enfin, bon, on ne va pas faire une émission sur les déchets, mais c'est un des domaines sur lesquels je crois que nous pouvons apporter des propositions.
Oui, mais on parlait de prise de conscience. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens trient leurs déchets?
Je crois.
Vous pouvez mesurer ceux qui...
Oui, ça, je crois. Je pense que là, il faudrait demander aux responsables de la Société Monégasque d'assainissement, par exemple, ou du service d'environnement, ou les autres services de l'État qui contrôlent. Je pense qu'effectivement, là, il y a eu une bonne réponse à cette initiative, à ce mouvement. Monaco est arrivé tard. Hein. La France avait mis en place des structures un peu bien avant, mais je pense que ça a été fait de façon forte. Et maintenant, il faut aller plus loin, parce que tous les déchets ne sont pas encore correctement triés, suffisamment triés, etc. Donc il y a une prise de conscience des personnes, mais il y a encore pas mal de domaines où on peut être mieux.
Deuxième grand axe, c'est réduire les émissions des déplacements.
Alors sur les déplacements... Le MC2D a été un peu à l'origine, à l'époque, du covoiturage, de l'opération de covoiturage sur Monaco. On essaye de mettre en place des déplacements plus, plus doux, comme on a l'habitude de le dire, à travers des vélos électriques, par exemple. L'opération devrait, j'espère, s'étendre au-delà de ce qui a déjà été fait dans les parkings avec quelques vélos mis prêtés aux gens, mais à quelques personnes. Mais là, on devrait arriver à faire quelque chose d'un peu plus significatif. et également, par exemple, sur le réseau d'autobus à Monaco, qui est quand même très bien développé, qui essaye d'employer des véhicules les moins polluants possibles, même si sur le marché français, il n'y a pas grand-chose encore de très significatif. Mais enfin, voilà. Donc, nous allons là-dessus, et également sur la problématique de circulation dans Monaco, qui pourrait être ressenti comme par un certain nombre de personnes plutôt comme une question d'encombrement, de temps perdu, etc. Mais il ne faut pas oublier que là sont en cause la qualité de l'air, etc. Bon, qui n'est pas mauvaise à Monaco d'une façon globale, mais on peut encore améliorer les choses et on peut essayer de réduire la circulation automobile, essayer de trouver des moyens pour accéder à Monaco qui ne soient un peu moins en utilisant la voiture personnelle, un petit peu plus en prenant les moyens de transport, en mettant en place des systèmes qu'on peut très bien imaginer, qui sont possibles de navettes souterraines à partir de parkings extérieurs, des choses comme ça.
Donc, alors là, ça, c'est du domaine de l'utopie ou c'est quelque chose qui va se réaliser?
Pour moi, c'est pas du domaine de l'utopie, c'est du domaine de la volonté et de savoir où on met ses billes. Et là, bon, MC2D a des propositions à faire en matière de funiculaires.
La question qui tue, à quand Monaco neutre en carbone?
Là, c'est une question de spécialiste. Il faut regarder quels sont les modes de calcul des dégagements de calcol de Monaco. Je m'amuserai à dire que oui, vous envoyez les déchets en France, vous ne vendez plus d'essence à Monaco, vous aurez pratiquement Monaco neutre en carbone. Ça ne veut pas dire grand-chose, parce que ce sont des consommations qui seront forcément à comptabiliser ailleurs, si elles le sont. Mais bon, vu la taille, c'est pas une question qui se poserait de façon très sérieuse.
Merci Raoul Viara, on se retrouve tout de suite en direct du Fermont.